journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, bienvenue dans votre émission, l'émission où vous avez la parole. Cette émission étant exceptionnellement enregistrée, je vous invite à nous faire part de vos commentaires sur la page Facebook, facebook.com/journal. Des auditeurs. Aujourd'hui, dans le JDA, les formations politiques dans les starting blocks en RD Congo. Après l'annonce de la candidature de Moïse Katumbi, c'est au tour de Félix Tshisekedi d'être investi pour représenter l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Alors que le scrutin ne comportera qu'un seul tour, l'opposition doit impérativement se rassembler si elle veut s'imposer. Face aux annonces, une candidature unique de l'opposition est-elle donc encore possible et quelles seront les conditions de l'organisation de ces élections ? Pour répondre à ces questions, nous recevons dans quelques instants Jean-Jacques Mamba. Il est porte-parole du MLC, le Mouvement de Libération du Congo. Mais avant cela, avant de vous prendre en direct, on se tourne sans plus tarder vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter une sélection de vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour les amis de JDA. Alors, je voulais éclaircir le point de l'aide du Congo-Brazzaville par la FMI. Je trouve ça maladroit. Je le dis, je trouve ça injuste. Et je le souligne en bico rouge. Pourquoi je le dis? Le FMI, c'est une banque qui cherche tout juste ses bénéfices. Il prête de l'argent à des pays qui ont des recherches et qui ne savent pas l'exploiter sous prétexte qu'on leur prête de l'argent au retour de prendre plus et de laisser toujours les gens dans des conditions très, très difficiles. Je donne l'exemple du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, c'est le FMI. On se pose des questions. Combien de fois le FMI a aidé le Congo-Brazzaville? Et combien de fois il a envoyé des experts pour voir ses fonds, si ça a été bien utilisé? À ma connaissance, les gens qui l'envoient, qui vont faire des expertises, ce sont des gens qui donnent toujours de mauvais rapports. Mais il semble que, en publiant, ils donnent toujours de bons rapports afin qu'ils prêtent encore de l'argent au Congo et ensuite qu'ils fassent de hauts bénéfices encore. Merci. Oui, bonjour les amis de JDA. Je lance une recherche d'une personne concernant Janine qui vivait à Aubervilliers, qui son enfant s'appelle Chris. Donc, si on trouve cette dame, on lui donne le numéro de 06 10 91 96 29. Qu'elle appelle ce numéro-là, parce qu'on a besoin d'elle. Merci.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages aujourd'hui dans le journal des auditeurs. La République démocratique du Congo, les grandes manœuvres pour l'élection présidentielle ont commencé. Notre invité pour en parler, Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, Mouvement de Libération du Congo, présidé par Jean-Pierre Bemba. Jean-Jacques Mamba, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, en République démocratique du Congo, des candidatures émergent en vue de l'élection présidentielle prévue selon le calendrier le 23 décembre 2018 après Moïse Katumbi, celle de Félix Tshisekedi. On va revenir dans quelques instants sur le meeting qui s'est tenu mardi dernier. Est-ce que le MLC va également présenter un candidat à cette élection présidentielle ?
Écoutez, c'est tout à fait envisageable. Il faudra attendre le congrès qui interviendra probablement au mois de juin-juillet. Et c'est en ce moment-là que les options seront levées quant à ce.
Est-ce qu'on a déjà une idée des potentiels candidats ?
Écoutez, c'est assez vague, parce que vous savez, il y a aussi une autre problématique, celle de l'élection en tour, qui va nécessiter des compromis. Et donc, à ce niveau-là, même si on avait un candidat, je crois qu'il y a encore un long chemin à faire pour avoir une candidature unique qui permettrait l'alternance.
La candidature unique est le souhait du MLC. On a entendu Madame Eve Bazaïba, la secrétaire générale du parti, l'a souhaité. En tout cas, Eve Bazaïba a assisté au meeting du candidat de l'UDPS, Félix Tshisekedi. Est-ce que il est envisageable que le MLC se rallie à une candidature de Félix Tshisekedi ?
Écoutez, toutes les options sont sur la table, ce n'est pas exclu. Comme nous disons, nous avons l'objectif ultime. Comme vous le savez bien, nous venons déjà de faire 21 années de gâchis depuis la Kabylie, depuis 1997. Nous avons une responsabilité historique parce qu'on a connu beaucoup de morts au nom de la démocratie, au nom du changement. Et par là, je crois que nous sommes tout à fait prêts à se sacrifier, à mettre nos égos de côté et voir comment est-ce qu'on peut construire un projet qui nous mènera vers l'alternance.
Est-ce que vous discutez avec Jean-Pierre Bemba de ces questions politiques en République démocratique du Congo ?
Naturellement, je l'ai vu il y a moins d'une semaine. On discute et puis il est en contact avec le parti. Il est membre du bureau politique, il a accès au téléphone, donc on discute régulièrement sur ces questions.
Quel regard il porte sur la crise politique en cours ?
Ce qu'il en pense. Mais je pense qu'il est sur la ligne. Hein. Rappelez-vous qu'à un moment donné, il a envoyé une circulaire demandant aux différents partis politiques et à nous-mêmes de mettre nos égos de côté pour construire un projet commun d'alternance. Donc je pense qu'il est aussi dans cet état d'esprit-là. Il a compris, il est même l'initiateur de ce projet. Et je pense qu'à ce titre-là, il n'y a pas d'obstruction quant à ce nom, aucune.
On rappelle hein, quand même que Jean-Pierre Bemba est actuellement détenu à la Cour pénale internationale pour des crimes contre l'humanité commis en Centrafrique. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Vous m'entendez bien, mieux, ça va ?
Oui, ça va, merci.
Bon, moi aussi, je m'entendais mal, on va y arriver. On va tout de suite écouter Bernard, notre auditeur qui est avec nous par téléphone. Bernard, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à votre invité, j'oublie le nom.
Jean-Jacques Mamba.
Jean-Jacques Mamba. Bonjour, monsieur Mamba.
Bonjour.
Il vous écoute. Alors, Bernard, hein, vous intéressez souvent à cette situation en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez une question d'abord pour monsieur Mamba ?
Juste avant de poser une question, je dirais, bon, les candidats se sont déclarés, comme nous le savons, à travers un peu le média, les meetings. Donc, je faisais allusion à monsieur Katumbi et Félix à travers son meeting qu'il a tenu. Mais, bon, voyons voir comment les choses vont évoluer. Est-ce que c'était le moment ? On ne sait pas encore. Mmh. Mais je ne vais pas entrer dans le jugement.
Pour vous, les annonces de candidature sont prématurées ?
Exactement, sont prématurées, c'est-à-dire, bon, j'essaie un peu de prendre l'avance, voir qui va essayer de me suivre, et puis éventuellement essayer un peu d'avoir de l'avance un peu sur les autres, alors que le départ n'a pas encore été donné. Je pense que dans une société organisée, il y a toujours un départ qui doit être donné à une date bien définie. Mais bon, acceptons les choses comme elles sont, parce que c'est la République du Congo et les choses, très souvent, ça marche comme ça. Mmh. Malheureusement, voilà. Par contre, ma question est de savoir, je pose à votre invité, c'est que, effectivement, j'avais vu Madame Bazaïba ainsi que Kamere et d'autres ont fait une plateforme où il y a eu ce que je peux dire, un accord trouvé entre guillemets, les opposants, où ils ont déclaré qu'ils vont présenter un candidat commun. Mmh. Alors, ma question est toute simple. Voilà, maintenant que ça se déclare un peu partout à gauche, à droite, que pensez-vous de cette situation et comment allez-vous gérer cela lorsqu'on sait que les uns et les autres sont ambitieux avec les égos qu'ils présentent, quoi. Voilà, ma question, elle est là.
Alors, face à tous ces égos, face à toutes ces candidatures, une candidature justement unique de l'opposition est-elle possible ?
Écoutez, elle est en construction. Je ne vais pas faire du triomphalisme, mais je pense que la volonté y est. Après, comme je le dis, il y a une responsabilité historique. Je ne vois pas pourquoi et comment nous pourrions endosser le fait qu'après 15 ans, après toutes les morts que nous avons connues dans notre pays, que finalement M. Kabila soit remplacé par quelqu'un de la majorité présidentielle. C'est-à-dire qu'on se serait battu pour rien et les gens seraient morts pour rien. Donc je pense que lorsqu'on prend cet élément en compte, il y a de l'espoir. Moi, personnellement, j'ai fait quelques démarches en allant voir M. Kamere, M. Félix Tshisekedi, ainsi de suite, et j'ai chez eux senti vraiment la volonté d'aboutir à cet accord de gouvernement, cet accord électoral qui nous permettrait d'avoir une candidature et de gagner. Donc je ne vais pas ici dire que c'est facile. Je sais qu'il y a des égos, je sais que chacun a sa base et chacun est populaire dans son coin. Mais à un certain moment, lors de la dernière ligne droite, je crois que tout le monde pourra se ranger et on trouvera nécessairement un compromis. En tout cas, on y travaille.
Si je vous comprends bien, finalement, ces candidatures sont aussi nécessaires pour mobiliser les militants ?
Oui, parce que vous savez, nous avons quand même un très gros problème, un problème logistique. Nous avons une élection à un tour, nous avons des cautions prohibitives, parce qu'on demande à chaque parti de cautionner 1 000 dollars par siège. Et donc, il faut effectivement que toutes les populations, tous les militants de chaque parti politique soient aux aguets, parce qu'il faudra contrôler le processus électoral de bout en bout. Et donc, ce n'est pas encore la campagne électorale, mais pour, si vous voulez, rallumer un peu la flamme, il faut effectivement que tous les partis politiques de l'opposition se mettent en ordre de bataille. Et c'est dans ce cadre là que les meetings sont organisés. Maintenant, après, lorsque la campagne commencera, je crois que bien avant d'ailleurs, nous aurons ces discussions franches que nous allons conclure, naturellement, si possible, vers une candidature commune.
Et pourtant, ce n'est pas facile, hein, les discussions entre partis de l'opposition. On a vu le RASOP, hein, qui était une coalition de l'opposition, qui a eu du mal finalement à imposer son agenda et son calendrier. On a vu certains membres de l'opposition rejoindre, non peut-être pas la majorité présidentielle, mais en tout cas le gouvernement d'union nationale. Vous comprenez le scepticisme des auditeurs quand ils disent finalement ça va être difficile d'une candidature unique de l'opposition, parce que jusqu'ici le rassemblement est un peu fragile.
Je le comprends parfaitement, mais je pense que ceux qui s'intéressent à la politique devraient relativiser. Hein. Vous avez par exemple en Belgique, à un moment donné, ils ont fait une année sans gouvernement. Ça veut dire que les tractations politiques, c'est vrai qu'il y a un mélange de genres, il y a des égos qui s'affrontent, il y a aussi des visions, il y a aussi, si vous voulez bien, des programmes qui font que les gens ne se mettent pas d'accord. Mais écoutez, est-ce qu'on devrait pour autant ne pas essayer? Est-ce qu'on devrait pour autant ne pas s'y lancer? Moi, je pense que dans ce cas-là, si on devrait s'arrêter maintenant et de manière prémonitoire, dit que ça ne va pas fonctionner, ben on n'arrivera à aucun résultat. Moi, je pense qu'on doit s'y essayer, on doit s'y forcer et peut-être qu'on aura un résultat cette fois-ci.
Est-ce que tous vos partenaires UDPS, UNC, Rassemblement qui supportent Monsieur Katumbi, est-ce que tout cela, d'après vous, même si on leur posera la question, bien sûr, en tant que journaliste, ont autant à cœur que le MLC d'une candidature unique?
Bon, ce n'est pas ce que j'ai lu. Hein. Vous savez, nous sommes en démocratie, chacun a son candidat et pour certaines raisons. La seule chose que le MLC dit, et ce que moi je pense aussi, c'est que pour une fois, il faudrait que les Congolais aient la possibilité d'écouter, d'entendre et de comprendre le programme de celui qui allègue ou celui qui prétend être candidat à la présidentielle. Donc, il faut qu'il y ait un vrai débat sur le projet, mais aussi qu'il y ait une vraie analyse du parcours et des capacités. Donc, toutes les solutions préfaites dans lesquelles on vous apporte quelqu'un, on vous dit c'est lui, écoutez, on va s'en contenter. Moi, je ne suis plus de ceux qui pensent que les Congolais doivent se contenter des choses. Je crois qu'on doit devenir de plus en plus exigeant parce que ça fait quand même 58 ans que nous sommes indépendants et que les résultats traduisent un contraste énorme entre ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons. Donc à ce stade-ci, ceux qui soutiennent M. Katumbi, ceux qui soutiennent M. Félix et ceux qui peuvent soutenir le MLC ou quelconque parti devraient aussi exiger de chacun de ces partis politiques de montrer de quoi ils sont capables, d'étaler des programmes et de les défendre. On ne doit pas se limiter dans la rhétorique, à la rhétorique oui voilà, il faut que Kabila parte, on va le remplacer. Il faut aller un peu plus loin que ça pour que nous sachions dans quelle direction le pays va aller.
L'alternance n'est effectivement pas un programme en soi. On va demander à Bernard s'il a peut-être une autre question, un autre commentaire, Bernard.
Juste une petite question m'avance et là je voudrais quand même relever ce que votre invité vient de dire. Hein. Dans ce qu'il a dit, voilà, il parle de quelque chose qui attire mon attention, c'est-à-dire un, être capable. Défendre le programme et ne pas avoir simplement la rhétorique. La rhétorique, simplement, c'est pas celle qui consiste à dire qu'Adila doit partir, mais c'est aussi ce que je veux définir aussi sous forme de populisme. C'est montrer que je suis capable, j'ai drainé la foule ou je draine la foule, et bien moi, je suis celui qui mérite, celui qui convient pour être candidat. Alors qu'on n'est pas capable, parce qu'il a parlé des capacités. Parce que gérer un pays comme les Congos, non seulement les Congos seulement, mais toute une nation, je pense que d'abord, il faut être un visionnaire. C'est prévoir d'abord et savoir défendre son programme et démontrer la capacité que nous avons à comprendre et à voir ce qui peut arriver demain. Or, aujourd'hui, ce que je constate dans le paysage politique congolais, c'est très souvent parce que je suis populaire. D'autres, vous allez m'excuser, ce n'est pas pour lancer des piques, mais c'est la réalité. Très souvent au Congo actuellement, ou si je suis le fils de Dieu, donc je me sens capable, je suis celui qui doit être. Alors que, scientifiquement, je ne pense pas que les scientifiques...
Vous ne donnez pas de nom, mais on voit très bien à qui vous pensez, mon cher Bernard.
Je citerai les noms, il s'agit bien des phénix, par exemple. Jusqu'à aujourd'hui, la science ne nous a pas montré que
dans le DNA de l'être humain.
L'ADN, oui.
Eh ben, ouais, donc, la compétence, la capacité, l'intelligence se transmet par le nom. Non, je pense que ce sont les éléments que quelqu'un doit développer de lui-même. Or, le paysage congolais politique nous montre toute une autre face et on se pose la question, où irons-nous demain? Alors, je reviens sur ce que votre invité a dit, mettre les égos des côtés et montrer que nous sommes capables. Mais il faut commencer déjà par cela, faire un primaire entre vous.
Au sein du RASOP, Bernard, c'est ce que vous dites?
Non seulement au sein du RASOP, mais au sein de leur plateforme, il faut qu'il y ait des débats.
On ne sait plus très bien les plateformes de l'opposition aujourd'hui.
C'est-à-dire Mme Bazaïb, le Félix, les Kamer, et qui se sont réunis à une plateforme pour présenter un candidat avec les Katumbi, je ne sais pas. Mais il faut qu'il y ait un débat entre eux, télévisé éventuellement, pour que le peuple puisse voir et se rendre compte qui va nous défendre valablement, qui est capable de le faire. Parce que rester dans le bureau, c'est définir par rapport aux intérêts et au profit partagé dans les quatre murs et sorti dire, eh ben, c'est moi qui serai candidat, nous avons défini que c'est l'autre candidat, quand même. Non, ce n'est pas comme ça. Nous devons apprendre à être matures politiquement. C'est là que je pose la question, comment votre invité voit tout cela, ce qu'il vient de dire, j'ai dit bien capacité de parler, de défendre, de démontrer que je maîtrise et j'ai un programme. Il s'agit pas simplement aujourd'hui de nous laisser emporter parce que hier ou bien aujourd'hui, nous avons un Kabila à la tête de la nation qui n'a pas de compétences, qui n'a pas montré quoi que ce soit, eh bien, ça ouvre la porte à quiconque de venir se dire, moi aussi je vais devenir président. Je pense que c'est très très dangereux et
Donc vos questions, si j'ai bien compris, mon cher Bernard, vous demandez à Jean-Jacques Mamba s'il voit un homme ou une femme capable de défendre un programme et ne pas seulement voilà, surfer sur une sorte de popularité. Ça, c'est la première question. À cela, j'en entends une deuxième. Moi, est-ce que la République démocratique du Congo, est-ce que le paysage politique actuel est prêt et mature pour organiser une primaire? Est-ce que ce serait possible?
Bon, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont la capacité, qui ont le savoir-faire, effectivement, qui peuvent mieux faire que Kabila, parce que ça, c'est tout à fait évident, qu'il y a des millions de Congolais qui peuvent mieux faire que Kabila. Si on parle de la politique, je citerai le nom de mon président, Jean-Pierre Bemba. Maintenant, pour ceux qui sont disponibles et qui sont sur le terrain, il y aura un mélange, parce que bon, on a besoin d'une personne compétente, mais il faut qu'elle soit populaire aussi. Et il faut qu'elle soit populaire sur l'ensemble du territoire national pour gagner les élections. Hein. Vous pouvez beau être docteur en économie ou philosophe ou ce que vous voulez, mais si vous n'êtes pas connu, vous n'allez pas passer à l'élection présidentielle. Donc je pense que le compromis va tourner autour de plusieurs critères, que sont la compétence, que sont la popularité, la notoriété, mais aussi la probité. Parce qu'il faut que la personne nous garantisse une forme de probité qui nous conduira vers des jours meilleurs. Parce que vous savez, notre pays est caractérisé par la corruption. Et donc si on met en place un système électoral qui sera chapeauté par une personne qui a une probité douteuse, on va tout remettre à zéro. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur lorsqu'il parle de capacité, parce que je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut maintenant mieux, et que voilà, le mieux n'est jamais aléatoire, il faut le construire, et nous sommes dans cette démarche-là, et nous allons y participer. Maintenant, effectivement, on devra, comme je viens de le dire, mettre ensemble tous les ingrédients pour avoir un profil plus ou moins parfait et un profil gagnant. Maintenant, savoir si nous sommes disposés aux primaires, par exemple à l'UDP, s'il y a eu un débat contradictoire entre Félix et les autres candidats il y avait des journalistes qui sont venus. Je pense que c'est un exercice qui va s'installer dans plusieurs partis politiques et c'est une dynamique qui s'imposera parce que les Congolais aujourd'hui ont quand même le droit de faire un choix en fonction de ce qu'ils ont entendu, de ce en quoi ils ont cru et non plus rester sur le chemin du fanatisme et ainsi de suite.
On va un peu parler dans quelques instants des conditions de l'élection avant de parler candidature. Hein, ça me paraît un préalable. Bernard, je vous remercie beaucoup de votre participation. À moins que vous vouliez rester à l'écoute, peut-être.
Oui, je reste à l'écoute. Je dis bonne chance à votre invité et surtout de ne pas tomber dans le farfelu superficiel. Parce qu'il y a X qui semble être populaire et puis s'est laissé emporter. Nous allons nous retrouver demain avec le personne que nous aurons choisi. Comme on dit, le peuple n'a que le dirigeant qu'il mérite si on ne fait pas attention. Voilà.
C'est très clair. Merci beaucoup. Bernard, je vous laisse Écoutez, alors je le disais en préalable aux candidatures, il y a quand même la question de l'organisation du scrutin, notamment la question aussi des machines à voter. L'ensemble de l'opposition a contesté l'utilisation de ces machines. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, dirigée et présidée par Corneille Nangaa, a annoncé qu'elle allait procéder à un audit de ces machines. Est-ce que cela peut répondre aux préoccupations de l'opposition ?
Oui, dans une certaine mesure, hein, M. Nanga apparaît un peu ouvert sur la question. Nous avions développé une méfiance qui est tout à fait légitime, hein, qui est partie de l'audio révélé par Jeune Afrique, hein, qui expliquait bien que la majorité entendait construire une majorité sur base frauduleuse en utilisant la machine. Donc c'est de là que tout est parti. Bon, maintenant, le président de la CENI semble ouvert à l'audit. Il faudrait que nous aussi, au niveau de l'opposition, nous nous organisions pour répondre techniquement. Parce qu'au fait, jusque-là, nous sommes encore en train de se baser sur les expériences des autres et nous n'avons pas d'argument technique imparable. Donc l'ouverture de M. Nanga nous permettra de démontrer que ce logiciel est entaché d'irrégularités et de virus. Je ne sais pas comment on va appeler ça, je ne suis pas informaticien. Et donc à ce niveau-là, on pourra prendre la décision finale. Mais il est d'un fait, c'est qu'on n'aimerait pas avoir des élections en 2019.
Oui, donc, oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que finalement cet audit ne va pas repousser encore un peu plus?
En tout cas, je crois que dans la hiérarchie des préoccupations des Congolais, c'est d'abord les élections 2018. Oui. Maintenant, on peut bien se rappeler qu'à Kinshasa, en 2006 comme en 2011, il y a eu des grandes tricheries. Il n'y avait pas de machine. Ça veut dire que la tricherie est faite parce que les gens sont habitués à tricher, parce que la majorité triche. Donc nous devons aussi nous organiser pour l'empêcher de le faire, en tout cas du moins minimiser l'impact de la tricherie dans le processus électoral. Et ça, c'est notre responsabilité.
Donc vous irez à une compétition à l'idée, à l'esprit qu'une triche est fortement probable.
Oui, en tout cas, dans toutes les élections du monde, lorsque vous donnez l'occasion aux gens de tricher, ils vont tricher. Hein. Donc maintenant, on a la problématique des témoins dans les bureaux de vote, parce qu'in fine, on nous dit que cette machine va imprimer des bulletins de vote papier. Donc chaque électeur a la possibilité de voir ce qu'il vote sur un papier, de le mettre dans l'urne lui-même, de rester jusqu'à la fin de l'opération et de compter les bulletins avec tout le monde. Mais la question, c'est celle des témoins qui devront effectivement prendre les procès-verbaux et, en cas de contestation, les exhiber. Donc tout ça, ça demande une organisation parce qu'il en faut plus ou moins 180 000. Nous avons 90 000 bureaux de vote et je crois que ce sont des questions primordiales.
Jusqu'ici, les manifestations de l'opposition étaient interdites. Étrangement, le meeting de l'UDPS a été autorisé. Comment vous interprétez ce geste de la part des autorités ?
Apparemment, on avait levé l'interdiction avant que ce meeting soit organisé. Et puis, elle était tout à fait injustifiée, hein, l'interdiction. Je pense que M. Kabila s'était mis dans une forme de phobie parce qu'il ne veut pas les manifestations. Il a même peur des cadavres. Hein. Il ne voulait pas que le cadavre de Félix Tshisekedi revienne. On n'a pas encore enterré M. Rossi Mukindi. Mmh. Je crois qu'il a peur de tout ce qui est manifestation populaire parce que pour lui, c'est synonyme de casse et c'est synonyme de coup d'État. Mais je pense qu'il a évolué dans sa pensée parce qu'il ne pourra pas contrôler le processus électoral qui est consacré finalement vers la fin en épilogue par une campagne. Et dans une campagne, on ne pourra pas empêcher les gens de parler. Donc si vous contenez des gens pendant 8 mois et vous les laissez parler un mois, ça sera beaucoup plus grave que si vous les laissez s'habituer à s'organiser dans l'ordre et manifester dans l'ordre. Je crois qu'ils ont compris cela et c'est tout à fait positif pour la démocratie. Maintenant, on verra bien s'ils vont continuer sur le même élan jusqu'aux élections.
Alors, j'insiste sur ce fait que le meeting était autorisé parce que dans le même temps, du côté de Beni, on interdit un des mouvements citoyens comme la Lucha de manifester. Récemment encore, des membres de la Lucha ont été arrêtés. Est-ce que l'autorisation du meeting peut être comprise finalement comme le fait que Félix Tshisekedi ne fait pas si peur que ça aux autorités ?
Non, je ne pense pas. Vous savez, la situation du Béni est complexe. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'accalmie, il y a des tueries tous les jours. Mmh. Et donc, je veux dire que les zones sécuritaires sont totalement différentes
de celles de Kinshasa. Mmh.
Et je pense que la sécurité est plus ou moins maîtrisée à Kinshasa. Je dis bien plus ou moins parce qu'il y a recrudescence de violences urbaines. Mais je veux dire, en ce qui concerne les effectifs des polices et les moyens pour contenir les foules, il y en a beaucoup plus concentrés à Kinshasa, le siège des institutions, qu'il y en aurait à Béni. Et donc, ça peut expliquer que, bon, voilà, Kinshasa, après analyse, et c'est tout à fait impératif, hein, nous sommes encore en période préélectorale, que l'on autorise. Maintenant, la situation de Béni, c'est aussi, si vous voulez bien, ça traduit l'incapacité de M. Kabila. Donc ça fait
incapacité ou capacité de nuisance ? Parce qu'on a vu, selon certains rapports et selon certaines enquêtes hein, de nos confrères Radio France Internationale, des membres des FRDC qui seraient impliqués dans ces massacres.
Oui, mais moi, je parle d'incapacité. J'ai pas d'incapacité à gérer. Je pense que lorsqu'on est président de la République, on prend l'engagement solennel de protéger les concitoyens, d'organiser l'État, d'organiser l'économie et le social. Donc, lorsqu'il y a des failles, et même si on est associé à ces failles, c'est qu'on est carrément incapable de respecter son serment. Je pense que M. Kabila n'était pas préparé à la fonction. Il était enfant soldat. Il est devenu président de la République. Le pays est trop grand. Il y avait beaucoup de choses à apprendre dans le tas. Et moi, j'aimerais bien qu'on tourne la page parce que c'est quand même 17 années de gâchis. Et bon, voilà, je ne vais pas dire que je ne lui en veux pas, mais je peux comprendre d'une certaine manière qu'il n'avait pas les outils ni le bagage nécessaire, effectivement, pour remplir toutes ses missions.
Que fait le MLC à Béni? Peut-être que vous avez des représentants. Comment vous venez en soutien à la population? Ça peut être le rôle aussi d'un parti politique, surtout si vous avez des ambitions électorales.
Oui, effectivement, nous avons un président fédéral, nous avons des structures à Béni, nous avons des concitoyens militants du MLC qui vivent cette situation au jour le jour et qui nous font des rapports. Nous retransmettons ces rapports au niveau de la police, de la ville, du procureur général de la République. Mais c'est une situation catastrophique. Voyez-vous, par exemple, en ce qui concerne la justice, pour ce qui concerne les crimes ou les crimes économiques comme les autres crimes, vous allez voir que le PGR ne s'en émeut pas trop. Il est très attaché sur des questions assez auxiliaires, mais il y a des graves choses. Par exemple, on nous dit qu'à Londres, on a gelé 650 millions d'euros. Il n'a jamais posé la question de savoir d'où il venait, ni interrogé les personnes, ni encore moins demandé qu'on rapatrie cet argent ou qu'on fasse la contre-valeur des biens. Parce que nous avons un processus électoral à financer à 500 millions, mais on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. La CENI a reçu un tiers, mais on sait par ailleurs que Londres a gelé l'équivalent de 658 millions d'euros. Et donc, un procureur général de la République devrait aussi s'intéresser à ce genre de questions, mais il ne le fait pas. Il ne s'est pas intéressé non plus à Panama Papers. Mais lorsqu'il s'agit des problèmes de nationalité de M. Katumbi, il est le premier. Lorsqu'il faut parler des opposants, il est le premier. Et c'est un peu cela, en fait, lorsque dans une République, il n'y a pas de verrou. Lorsque le chef de l'État ou la majorité présidentielle instrumentalise la justice, sans oublier qu'elle va partir et que demain, elle va se retrouver sur le banc en train d'observer comment est-ce que la même justice va se retourner contre eux. Donc je trouve ça tout à fait banal pour les Africains, pour les Congolais en particulier, de ne pas avoir des verrous, de ne pas se dire à un certain moment, écoutez, ça c'est la République, cette limite, on ne la dépasse pas. Malheureusement, M. Kabila n'a pas eu de limite et donc le pays ne ressemble à rien, en termes de droits de l'homme et en termes de droits en général.
Alors, vous dites, ils vont partir comme si finalement l'alternance était actée. On entend le PPRD se mobiliser, ils ont promis d'annoncer bientôt une liste de candidats à toutes les élections. Que pensez-vous d'un éventuel scénario d'un successeur de Joseph Kabila? Une sorte de scénario à la Poutine-Medvedev, c'est ce qu'on a vu en Russie quand il y a eu la limitation des mandats. Finalement, Medvedev était président, Vladimir Poutine Premier ministre. Comment réagiriez-vous à un tel scénario?
Bon, déjà, lorsque je dis ils vont partir, je stigmatise simplement le fait qu'il y a la circulation des élites et que Kabila n'est pas éternel. Mobutu a fait 32 ans, il a fini par partir. Bon, maintenant, quant au scénario à la Poutine, vous savez, c'est des pays complètement différents. Nous avons un pays qui, pendant que M. Kabila avait toute sa légitimité pendant 17 ans, il n'a pas réussi à gérer ce pays. Donc je le vois très mal aujourd'hui organiser avec des Congolais qui sont réputés très peu loyaux un scénario à la Poutine parce que ça va se retourner contre lui. On a vu l'exemple en Angola avec M. Lorenzo qui a fait plus de 20 ans ou 30 ans aux côtés de Santos et aujourd'hui qui a les reines du pays, et qui fait autre chose, qui lance des procès par-ci par-là, ainsi de suite. Donc je veux dire que M. Kabila lui-même, lorsqu'il a épilogué en disant qu'il n'a pas 15, il cherchait 15 personnes, 15 collaborateurs, c'est qu'il m'apparaît comme une personne qui n'a confiance en personne. Il n'a même pas confiance en ses collaborateurs et je le vois mal aujourd'hui. D'ailleurs, voyez-vous, la question de Dauphine n'est pas soulevée parce que je le vois mal aujourd'hui de plein gré avoir assez confiance en une personne pour lui confier ce genre de tâche parce que cette personne risque de se retourner contre lui. Mais ce n'est pas tout. Elle ne fera pas l'unanimité au sein de la majorité qui aujourd'hui est très divisée aussi.
On arrive bientôt à la fin de cette émission. La communauté des États d'Afrique australe s'est réunie mardi dernier. Le sommet des chefs d'État a souligné les progrès remarquables réalisés en RDC. La SADC a même renoncé à envoyer un envoyé spécial justement pour se pencher sur la situation. Comment réagissez-vous à ce communiqué de la SADC? On pensait avec le départ de Jacob Zuma notamment et d'Eduardo Dos Santos qui étaient des soutiens de Joseph Kabila, on pensait que la SADC allait être plus ferme contre le régime actuel. Pour le coup, est-ce qu'on peut parler d'un soutien à Joseph Kabila, ce communiqué ?
Bon, je pense qu'ils ont, ils ont fait le profil bas, parce qu'effectivement, nous avons aujourd'hui un fichier électoral consolidé qui est en train d'être audité. Donc, toutes les conditions sont plus ou moins réunies pour que nous allions
aux élections. Vous vous associez au communiqué de la SADC. Pour vous, il y a eu des progrès ?
Parce que, non, je ne parle pas de progrès. Je parle du fait que la SADC constate qu'effectivement, ce qui bloquait le processus électoral, c'était l'absence du fichier et qu'aujourd'hui, cette opération est terminée. Et donc, c'est aussi un message pour dire à M. Kabila, maintenant que tu as un fichier, tu n'as pas de raison pour ne pas organiser les élections le 23 décembre. Et on doit se le dire ici, c'est au plus tard, au mois de juillet, qu'on doit connaître son successeur. Donc je pense que la stratégie de la SADC n'était pas de mettre de l'huile dans le feu. On devait essayer de sécuriser et de conscientiser tout le monde sur le fait que voilà, maintenant c'est une évidence que nous aurons des élections et on enlève tout prétexte à M. Kabila de ne pas les organiser. Donc je pense que c'était sage, c'était diplomatique, mais la date du 23 décembre a été reprise 3, 4, 5 fois. C'est pour dire aussi en même temps à M. Kabila, écoutez, vous avez fait 2 ans de plus, ça porte à 17 ans, 19 ans, maintenant c'est terminé, cette année vous devez partir. Ça a été poli, mais c'était clair.
Poli, mais clair. On va demander à Bernard s'il a un petit mot de conclusion. Vous avez entendu ce qui s'est dit jusqu'ici, il nous reste 3 minutes. Bernard, vous vouliez peut-être ajouter éventuellement quelque chose ?
Ouais, juste, j'enchaîne un peu sur ce qui a été le communiqué de la SADC. Effectivement, c'était politique et surtout diplomatique. Je pense que selon les informations aussi que nous avons pu avoir à notre possession, ça a été quand même beaucoup plus que ça. En coulisses, ça a été très fort avec M. Kabila, de manière à ce qu'il comprenne qu'on ne peut pas continuer éternellement à jouer comme ça avec la vie des gens. Donc, il est un temps, il faut qu'il parte de manière à ce que la transition puisse se faire tranquillement et que le Congolais puisse continuer à vivre paisiblement comme tout citoyen. Maintenant, je reviens pour dire simplement que, en ce qui concerne la politique au Congo, et là, je termine, je nous souhaite à ce que nous puissions montrer cette maturité politique que nous vantons tout le temps d'avoir la maturité. C'est-à-dire à ce qu'il y ait une marche politique, et lorsque j'entends marche, ce n'est pas dans la rue, mais une marche, une démonstration politique qui soit intelligente, que nous montrons, nous puissions montrer, pardon, notre capacité d'analyser les problèmes et surtout les comprendre et apporter des solutions pour que notre peuple puisse nous faire confiance. Voilà un peu ce qui est mon petit dernier mot et mon souhait.
Merci Bernard, on reconnaît aussi l'acteur politique dans vos propos. Vous êtes membre de l'UDPS, hein, Bernard, c'est bien ça, hein ?
Je suis membre de l'UDPS, j'ai adhéré dans l'UDPS depuis 1983, la date où j'ai mis mes pieds en Europe. J'étais très jeune, quasiment 18 ans, et donc vous pouvez comprendre.
Ça fait 35 ans.
Voilà.
Merci beaucoup Bernard d'avoir été notre auditeur spécial pour cette émission. On arrive à la fin de cette émission, elle sera rediffusée ce soir à 19h20. Merci Jean-Jacques Mamba d'être venu jusqu'à nous. C'est un plaisir partagé, je crois pas qu'on vous ait entendu, vous avez dit c'est un plaisir. Merci beaucoup Jean-Jacques Mamba, je rappelle que vous êtes le porte-parole du MLC, c'est le mouvement de libération du Congo. Demain, mardi 1er mai, exceptionnellement, ce sera une rediffusion du journal des auditeurs. Alors justement, retour sur l'émission du 24 avril dans laquelle vous aviez réagi à l'accord sur les obsèques d'Étienne Tshisekedi. C'est donc le programme de demain. En attendant de vous retrouver mercredi en direct, prenez grand soin de vous et des autres aussi. À l'écoute d'Africa numéro 1, la seule, l'unique et la vraie radio africaine. À bientôt.